ceux qui nous rejoignent, qui ne nous connaissent pas, le but, ça va être de parler de la PS Vita, puisqu'on est clairement obsédé par cette console pour la plupart d'entre nous. Si vous ne nous connaissez pas, bah, je vous invite à aller voir le site planetvita.fr qui a adopté un nouveau look, un peu plus confortable depuis quelques mois. Au niveau des dernières publications, on a eu quelques tests qui sont sortis, comme le test des incontournables des jeux de la PS Vita, comme Tearaway, Muramasa, le Uncharted qui était sorti dès la sortie de la console pour un titre de lancement. On a eu également un test de Worms, un autre test vidéo d'un jeu de voiture assez sympathique de Spy Hunter. Et enfin, on a eu également, c'était un peu tôt dans l'année, on a eu The Mooseman qui était sorti aussi en version Eastasia Soft, en version physique. On a eu un petit hors-série aussi avec le test de la PlayStation Portal, donc qui est pas vraiment une console, un petit peu un accessoire, mais qui permet de faire du remote play avec la PlayStation 5. Donc voilà, au niveau des dernières infos qu'on a pu aussi parcourir, dernier podcast avant celui-ci, on avait évoqué les DLC de Little Big Planet qui étaient retirés du store. Donc c'était normalement le 31 octobre 2024. Ça concernait normalement toute la franchise, donc tout était enlevé du PlayStation Store. Les DLC de Little Big Planet, pour rappel, ça consistait gros à acheter ou en tout cas télécharger des tenues. Donc c'était plutôt comme cosmétique, mais également aussi des niveaux. Ils avaient annoncé qu'ils retiraient tout du PlayStation Store le 31 octobre 2024, et en fait après coup on s'est rendu compte que là actuellement, si vous allez sur le PlayStation Store de la PS Vita ou de la PS3, les DLC sont toujours présents. Donc si vous voulez en récupérer quelques-uns, allez-y, surtout qu'ils sont pour la très très grande majorité cross-buy avec les trois épisodes à part quelques-uns, mais voilà, vous pouvez les retrouver sur le PlayStation Store de la PS Vita et de la PlayStation 3. Voilà, sur le site également, on a parlé également des derniers portages non officiels. Pareil, on en avait fait tout un podcast dernièrement concernant les jeux qui sont en fait qui sortent sur Android et qui sont portés de manière non officielle sur PS Vita. Donc dans la grande majorité des cas, c'est des jeux qui sont sur Android, comme par exemple Assassin's Creed Altair's Chronicles. On a eu également Les Soldats Inconnus, Mémoire de la Guerre. Un peu à part, mais on a eu aussi la version de Zelda Ocarina of Time, qui n'est pas lancée depuis un émulateur, mais vraiment une version propre à elle-même. Et on a eu également en août dernier, donc l'équipe russe PG Team qui a mis en ligne sa version 1.5 de Grand Theft Auto Revisited Trilogy, donc les trois GTA qui ont été portés à la base. Et donc là, le but pour cette équipe russe, c'est d'utiliser les portages Android existants sur PS Vita pour se rapprocher d'une expérience ultime sur la console portable de Sony, c'est-à-dire en remettant les musiques qui ont été enlevées, en retravaillant quelques graphiques, etc. Au plus des portages, on a eu également des traductions, donc des traductions de jeux qui n'étaient pas sorties à la base en français. Donc il y a des fans qui s'occupent de faire des traductions. Donc je vous invite aussi à voir sur le site, on a toute une catégorie qui répertorie les traductions non officielles de jeux qui ont été faites en français. C'est vraiment intéressant si vous étiez bloqué par la langue sur des jeux uniquement en anglais ou même certains qui n'étaient même pas sortis chez nous. Donc ça peut être intéressant, comme par exemple Catherine qui était sortie au Japon sur PS Vita, pas chez nous. Là, les gens qui ont récupéré les versions des autres consoles pour en faire une traduction en français, donc c'est plutôt sympa. Au niveau des guides, on a sorti deux guides très rapides. Donc c'est pour un guide de jeu pour les enfants, parce qu'on s'est dit que la PS Vita, c'est pas que pour les adultes. Les enfants, à partir d'un certain âge, peuvent essayer aussi de jouer à la PS Vita. Donc vous pourrez voir une sélection d'une petite dizaine de titres qui peuvent être intéressants pour les enfants. Et avec ça, vous avez également la présentation du contrôle parental, donc peut permettre de limiter votre enfant, ou en tout cas qu'il n'aille pas faire un peu n'importe quoi, ou qu'il lance pas n'importe quel jeu qu'il a pu choper dans votre collection. Voilà pour les dernières infos sur le site. Enfin, on n'en avait pas parlé, mais il y a eu un gros titre qui était un peu une exclusivité PS Vita qui est sorti en fin d'année 2024, si je ne dis pas de bêtises, ou début 2025. C'était Freedom Wars, donc qui était sorti sur PS5, PS4 et Nintendo Switch, en tout cas sur les consoles. Il n'y a pas eu de version physique chez nous, donc on s'est tous dirigés vers l'Asie pour choper une version physique, en allant chez par exemple PlayAsia et pour récupérer la version physique de Freedom Wars, donc qui inclut le français directement sur le disque. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. On a des gens qui sont avec nous aujourd'hui. On a Monsieur Sushi qui est avec nous.
Salut.
Et on a également SBK.
Ouais.
Alors, on a parlé tout à l'heure de Freedom Wars. Toi, tu l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça aussi, si je me souviens bien. Moi, je l'ai acheté dès la sortie en version PS5. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que déjà, tu avais fait la version PS Vita à l'époque?
Non, non, du tout. Bah déjà, j'ai eu ma Vita tard. Enfin, tard. Ça dépend comment on resitue ça. tard par rapport à la sortie originale, mais après tôt par rapport à la nouvelle vague, on va dire, parce que je l'avais acheté en 2018. Vraiment, c'est ça, 2018, été 2018. Et j'avais pas fait la version originale. Et du coup, quand le remaster est sorti, je me suis dit pourquoi pas. Et puis surtout, il y a pas mal de jeux comme ça où j'ai un peu du mal avec le format portable des fois. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, je préfère me poser sur grand écran dans un salon plutôt que d'y jouer en portable. Et là, du coup, c'était un peu de ces jeux-là, dans ce type-là. Et du coup, j'ai bien aimé le faire. Ouais. Je l'ai pas fini parce qu'en fait. Il y a des fois où, quand il y a des grosses sorties qui m'intéressent vraiment, bah, en fait, je change en cours de route. Et je pense que j'ai fait au moins les deux tiers du jeu. Faudrait que je le reprenne, mais très très sympa à jouer. Puis, avant d'y jouer, j'ai dû l'attendre, vu qu'on avait eu des soucis de stock et d'exped avec PlayAsia. Mais une fois que c'était arrivé, j'avais commencé direct. Ouais.
Grosso modo, une bonne expérience, et c'est vrai que tu n'avais pas connu l'épisode PS Vita, donc tu n'avais pas vraiment d'éléments de comparaison. Directement, tu entrais dans le jeu, sans comparer.
Non, mais après, enfin, de toute façon, c'est le même jeu avec une
Ouais.
technique un peu revue. C'est un jeu qui se joue toujours très bien aujourd'hui, avec un système qui marche bien, pas mal de builds faisables en termes d'armes, etc. Même la personnalisation des personnages est bien.
Et toi, Sushi, tu as pu l'essayer le jeu? Je sais que tu l'avais acheté, hein, puisque tu nous l'avais montré sur
Je l'ai acheté, mais
Twitter.
bon,
Mais
avec
bon,
tout ce
quoi.
que j'ai, tout ce que j'ai là en ce moment,
Donc, il est encore
c'est.
sous blister.
Non, il est plus sous blister.
Ah, quand même. Mais tu l'as au moins
Il a
mis dans
quand
la
même été
console.
il a été mis dans la console,
Oh.
mais j'ai jamais eu le temps d'y jouer.
Et sur la PS Vita, tu l'avais fait un peu ou pas?
Sur Vita, j'y avais joué principalement lors des soirées Vita in Paris.
D'accord. Bon, moi j'y ai joué. Sur PS Vita, je l'avais terminé. J'ai passé énormément de temps dessus à l'époque. Mais j'avoue que ça m'a un peu déçu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas arrivé à rentrer dedans sur la version PS5. Je ne sais pas, peut-être parce que c'est plus adapté à une console portable. Quoique les contrôles n'étaient pas évidents avec les deux joysticks, je trouve que c'était pas top à l'époque. Donc là, on est avec une vraie manette. Mais j'ai joué peut-être 3 heures, pas plus. Et peut-être parce que je l'ai déjà fait, je me suis dit, j'ai pas envie de tout refaire. Après, ce que je trouve dommage aussi, c'est que l'éditeur n'en a pas du tout parlé. C'est sorti de manière assez confidentielle. Et en plus de ça, c'est sorti chez nous uniquement en dématérialisé. Donc il n'y a presque aucune communication là-dessus,
C'est
quoi,
un peu le
c'est.
problème des licences que Sony a prêtées à Bandai. Ils
Ouais,
font
c'est
n'importe quoi.
un. Ouais, on a récemment Everybody's Golf. Alors c'est quoi
Ok.
l'histoire avec Everybody's Golf? Qu'est-ce qui se passe en fait pour la
En
sortie?
France, il n'est pas vendu par Bandai. Donc faut aller soit en Espagne, en Angleterre et en Allemagne, sans compter les versions asiatiques pour celui-ci. Après, avant, c'était Patapon,
On a eu
où
également
là,
Patapon, effectivement, ouais.
ils ont sorti le jeu que sur Switch en version physique, peu importe où on est situé sur Terre. Mais voilà, c'est les choix de Bandai Namco 2024-2025, et même pour d'autres jeux qui leur appartiennent, ils ont des choix de distribution bizarres.
C'est vrai que c'est assez particulier. Donc là, pour Patapon, on ne peut pas le trouver. Il est sur Switch, j'ai vu, mais sur PlayStation 5, il est pas en version physique, c'est ça?
Pour Patapon, la compilation, elle est ouais, que sur Switch, que ce soit au Japon, en Asie, en Europe, peut-être aux USA, pas sûr, mais en tout cas, chez nous, c'est que sur Switch.
J'avais vu à un moment la version PS5 qui avait été listée sur Plaisia, mais c'est dommage, c'est vrai qu'ils l'ont assez rapidement retirée. Mais voilà, rien que la communication sur le début, sur la version physique, c'est à nous de chercher l'info, c'est pas clair, je sais pas ce qu'ils font, Bandai Namco, c'est vraiment dommage, je trouve, parce que ils nous ressortent des licences intéressantes finalement. Et imaginons ils nous ressortent un Soul Sacrifice par exemple, ce serait dommage qu'on n'ait pas une version boîte de manière plus facile à trouver, quoi.
Ouais, surtout que bah forcément dès que t'as un jeu qui est pas dispo en physique, ça t'enlève une présence en magasin. Et c'est con, mais des fois il y a des jeux, tu les découvres bah dans les bacs promo ou des trucs comme ça, ou même juste en fouillant un peu dans les rayons. Donc ça enlève potentiellement des ventes. À la limite, si vous voulez
Ça.
pas trop se mouiller, ils auraient fait des exemplaires pas limités, mais un stock réduit, quoi, quitte à en refaire. Mais ouais, là, le fait d'avoir le parti pris de bon, bah, on n'en sait pas, ou alors que sur Switch. Alors que c'est une
Ouais, c'est
licence
assez
PS à la
particulier.
base.
Ouais. Est-ce que ce serait possible que ça sorte plus tard en limited run, par exemple? Est-ce que Bandai Namco a déjà fait du limited run? Alors, je pense à LRG, mais il y a d'autres, il y en a d'autres, hein, mais
Ouais,
avec
mais
chez nous, être Red Art Games ou je sais pas qui. Enfin, ça fait
on
bizarre
sait
quand même
tous.
une grosse boîte comme Bandai Namco s'en revienne à sortir du LRG, ça ferait quand même bizarre.
On
Même
sait
si, bon,
tous
pourquoi
les
pas.
problèmes avec LRG, c'est ça le truc.
Oui, mais après, on a aussi chez nous, on a aussi enfin, l'équivalent de Just for Games, genre, je crois qu'ils ont changé de nom, Maximum Games, je crois, maintenant, qui sort aussi des versions boîte.
Bah, Just for Games, oui, distribue, enfin maintenant
Ouais.
sous oui, Maximum Games, il distribue certains jeux en France. Voilà, après, faut aussi prendre en compte, c'était lequel sur Vita, Bandai Namco qui s'était associé avec Limited Run Games. Ils ont sorti certains jeux en version physique.
C'était
Ils
lesquels, tu
pourraient.
souviens?
Et donc j'ai retrouvé le nom du jeu, c'est Raigigant.
Il était sorti en LRG, mais il n'était pas sorti chez nous en boîte, celui-là.
Non, que en version numérique et bah au Japon.
Au Japon aussi, ouais.
Bonjour.
Donc Guillaume qui est avec nous aussi sur le Discord depuis un petit moment.
Enchanté.
C'est ça, hein?
Ouais, depuis je pense que ça date de la sortie de Nmetal sur PlayAsia.
Metal sur PlayAsia, c'était 2018, un truc comme ça,
Alors, je crois que c'est plus
2017.
récent, je crois que c'est au moment où Covid, c'est dans les
Ah oui, peut-être
2020,
2010.
2021, je dirais.
C'est possible, ouais. Donc toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à acheter une PS Vita, Guillaume?
J'avais une PSP depuis 2007 et puis en 2015 je me suis retrouvé à refaire des missions au long cours et bah, c'était long dans les chambres d'hôtel et tout ça donc
Eh oui.
j'avais besoin de jouer un peu et du coup au lieu de trimballer la PS3 ou la PS4 dans les bagages à chaque fois bah, j'ai sauté sur une PS Vita qui était en occasion sur le Bon Coin avec la boîte Uncharted et Uncharted et j'ai enchaîné derrière sur une PS Vita que j'ai trouvé en mission aux US à PS Vita TV, pardon. J'ai trouvé à 20$. C'est Paka qui l'a d'ailleurs maintenant.
Très bon prix.
Et, ouais. Et du coup, bah, j'ai enchaîné derrière. Et puis en trouvant le Discord, bah, ça a alimenté le fait que de racheter des jeux, de récupérer d'autres PS Vita. Alors, j'ai pas les collections que vous pouvez avoir. Hein. J'en ai que 3. Ça permet de faire jouer les enfants aussi.
Bah c'est déjà pas mal. 3 PS Vita, enfin c'est déjà pas mal. Au niveau des jeux, t'as un genre en particulier que tu aimes bien. Quel était l'un de tes premiers jeux que tu as eu sur la PS Vita?
Alors, sur PS Vita, l'un des premiers jeux que j'ai eu, c'est les Metal Gear, le package en physique. Et puis après, en venant de la PSP, je m'attendais à trouver pas mal d'offres de sport, ouais, mais j'avoue que j'étais un peu déçu de ce côté-là. Mais en fait, j'ai tout de suite accroché à PKG, à Persona 4. Et ça a été le jeu auquel j'ai le plus joué depuis que j'ai la PS Vita. Après, j'avais beaucoup accroché à Guacamelee et Severed, que j'avais fait aussi sur Severed, qui pour moi est un des meilleurs jeux avec l'utilisation de toutes les features de la Vita. Et ça a été vraiment agréable de faire ces jeux-là. Et après, j'étais un peu plus sous Château. J'ai fait Astro Aquaquickity. Mais voilà, le go-to, c'est toujours P4G. J'ai toujours pas. J'ai l'impression que le Discord, à certains moments, c'est une cellule de soutien psychologique pour les personnes qui n'ont pas fini P4G.
Non, mais c'est un jeu qui se joue sur la durée d'une vie entière, en fait, je crois, Persona 4. C'est très bien. Tu as cité Astro Aquaquity. Franchement, j'ai trouvé ce jeu génial. Je l'ai platiné il n'y a pas longtemps. Je l'avais lancé à l'époque de. Quand il était sorti, je me suis remis en disant, bon, allez, il me restait 2 niveaux à faire. Et franchement, pour un petit jeu comme ça, je trouvais vraiment, vraiment bien. C'est un petit shmup, en fait, avec une petite partie de RPG où tu customises ton vaisseau, tu prends des armes à droite à gauche. Vraiment, j'ai trouvé assez sympa.
Ouais, il était vraiment vraiment agréable. En plus, ça faisait un moment que j'avais pas fait de shmup comme ça. Et je trouvais que le design était sympa. Ce qui est frustrant, c'est quand sur ces jeux-là, le souvenir que j'en avais, c'est que j'avais toujours l'impression que soit le vaisseau glissait beaucoup trop, soit pas assez, soit j'avais pas assez de réactivité. Là, c'est vrai que les contrôles sont vraiment bien fichus. Et avec toutes les évolutions que tu peux mettre, t'as vraiment moyen de t'amuser et t'as pas un seul chemin de upgrade à faire. C'est agréable.
Ouais, et moi j'ai adoré là aussi la bande sonore. La bande son est vraiment vraiment bien. C'est les musiques, t'éteins la console et t'as encore la musique dans la tête. Je trouve ça vraiment vraiment sympa. Je sais plus s'il était sorti en version physique celui-ci. J'ai un doute. Je crois
Il
pas.
était sorti en version version physique et c'est Morgal qui me l'avait prêté et il se l'est fait piquer quand je lui ai envoyé le jeu.
Ah mince, ouais. Bah, tu vois, là en plus, c'est une version physique PlayAsia et dedans, ce qui est bien, c'est que bah, même si des fois ça peut sembler anecdotique, là tu as le CD avec la bande sonore, ça peut être aussi sympa pour ce genre de jeu et ça fait penser aussi à la musique de Mercenary Kings qui est aussi le genre de musique. Tu éteins la console et tu as encore la musique dans la tête. Quoi.
Ouais. Donc, vraiment aussi. PlayAsia, j'avais en bande son, j'avais vraiment apprécié Horizon Chase Turbo ou Turbo Chase, je sais plus dans quelle ordre ça se dit, mais qui
Horizon Chase.
Les Outrun qu'on avait sur les consoles 16 bits, ouais. C'était vraiment génial.
Ouais, c'est un bon exemple. Ouais. Bon exemple aussi. Donc, toi, plus la PS Vita, c'était pour les déplacements. Donc, tu jouais dans le train, en avion, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Dans le train, en avion, dans les hôtels, quand j'étais en attente du travail, et ça permettait de bien décompresser. Et puis après,
j'allais dire une fois que tu rentres chez toi, est-ce que la PS Vita, tu continues quand même ou tu repasses sur la console ? Comment tu fais ?
Je continue sur la PS Vita. Quand j'ai une partie en cours, là, je suis sur Suikoden 1. Donc, je reste sur la PS Vita. Et c'est vraiment juste pour des jeux particuliers où je vais arrêter une session et rebasculer dessus. Là, actuellement, sur PS4, je suis sur Destination Take Us to Mars, qui est un jeu d'aventure spatiale que j'aime bien. Plus proche d'un visual novel par certains aspects. Mais du coup, là, j'alterne entre Suikoden et Mars, et Take Us to Mars.
D'accord. Tu nous as dit que tout à l'heure que tu avais eu une PS Vita TV, donc le PlayStation TV, pour $20, ce qui est un excellent prix. Tu l'utilises encore ou quelle était son utilisation ? Tu la branchais sur une télé à l'hôtel ou qu'est-ce que tu faisais avec ?
Je la branchais sur télé à l'hôtel et puis pendant un moment, ça servait de... J'utilisais beaucoup quand j'étais à la maison, j'utilisais beaucoup pour le remote play. En fait, ça me permettait de faire passer la PS4 sur une deuxième télé. Donc, j'étais la télé principale à madame et j'étais sur une deuxième télé avec la PS TV. Et puis là, il y a quelques années, je l'ai revendu à PACA.
Donc PACA, oui, qui est sur le serveur Discord, effectivement. Tu parles du remote play. Est-ce que c'est un long débat, hein, parce qu'il y en a qui ont des utilisations du remote play qui fait que des fois ça marche bien, des fois ça marche pas bien. Toi, ça donnait quoi donc entre PS TV et PS4, qu'est-ce que ça donnait et quelle était ton installation ? Ça marche ?
Alors quand j'avais PS TV, j'étais en CPL, donc j'avais c'était vraiment pas mal et je pouvais pas trop utiliser en Wi-Fi parce que j'avais des murs assez épais, donc ça passait pas terrible. Après, quand t'es sur des jeux où c'est assez calme, type Banner Saga ou comment ça s'appelle, ou Take Us to Mars, c'est calme, c'est pas sur des réactions rapides, donc peut avoir le temps d'attente. Après, je pense que si c'est faire du remote play avec la PS Vita sur du Call of Duty, c'est pas la peine d'essayer.
Ouais, c'est clair. Bon exemple, c'est vrai que sur des jeux calmes ou même des jeux de simulation, je pense des jeux de simulation où tu crées ta ville, ce genre de jeu, c'est que c'est plutôt bien adapté, je trouve.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et franchement, c'était une idée quand on voit la Switch et les services qui sont mis en proposition actuellement, c'était vraiment génial à l'époque. C'était 15 ans avant tout.
Ouais, après on en avait parlé sur tout un épisode de nos podcasts, donc si vous voulez aller le réécouter, on en a pas mal parlé, mais c'est vrai que ce qui était dommage, c'est qu'à l'époque, c'est une console qui a été un peu vendue comme un accessoire d'une PS4, et niveau marketing, c'était pas, je pense, pas la meilleure approche pour que les gens comprennent du premier coup ce que c'est vraiment, et alors qu'en fait, tu pouvais faire plein de choses, tu pouvais faire du remote play, jouer à tes jeux PS Vita, tes jeux PlayStation 1, les mini aussi, si on en avait, et puis on va pas se mentir aussi, c'est quand on hack la PS TV, on en ouvre la porte à plein d'autres choses, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est les portages non officiels, voilà, rejouer à ces jeux PSP aussi, qui sont plus sur le store, enfin voilà.
Ou même juste la whitelist.
Et oui, c'est vrai qu'à la base aussi, le gros point faible, c'était que t'aies des jeux qui étaient, on va dire, faisables sur un écran de télé, étaient bloqués parce que c'était pas prévu. La whitelist qui permettait effectivement de, on va dire, débloquer certains jeux. Moi, je pensais à Wipeout par exemple, qui était pas possible à faire de manière officielle sur le PS TV, mais avec la whitelist, tu pouvais. Et alors que franchement, il y a pas de, sauf si tu voulais faire le jeu avec le gyroscope. Et encore, c'est pas super super pratique. Mais voilà, c'est un bon exemple. Et en plus, ça méritait même... Je crois que c'était même pas nécessaire de vraiment hacker la console. Il y avait, à un moment donné, une technique de whitelist avec... fallait s'envoyer un fichier par mail sur la PS Vita, enfin sur la PS TV, et c'était suffisant.
Et personnellement, vu la Wipeout, je sais même pas comment les gens arrivent à jouer avec le gyroscope de la PS Vita.
Je pense que c'est juste une fonctionnalité qu'ils se sont dit, ils l'ont fait pour le délire, pour se dire, allez, c'est bien, ça permet de montrer que c'est faisable, mais en vrai, c'est injouable, c'est pas possible.
Je pense que c'était pour reprendre la gimmick de la Wii et puis tous les jeux mobiles le faisaient à l'époque aussi, donc.
Ouais, c'était un peu ça, et puis ça faisait un peu vitrine, regardez, c'est possible de le faire, quoi. Mais
Ouais.
honnêtement, tu fais une course avec et après tu t'arrêtes, quoi. On va passer aux choses sérieuses, on va rejouer avec les joysticks ou avec le pad parce que c'est pas possible. Et donc, Guillaume, toi, sur la suite après, ta collection, ça s'est passé comment? Tu t'es dit, je vais poursuivre ma collection de jeux, je vais acheter des jeux à droite à gauche. Comment ça se passe ensuite?
C'est juste en fonction des titres
Des
qui
envies?
m'intéressaient. J'ai pas, je suis pas spécialement, enfin, si, parce que vous avez vu le coffre que j'ai posté sur le Discord. Il y a une collection quand même, mais il n'y a pas de recherche d'exhaustivité ou de. C'est des jeux que j'aime bien, auxquels j'ai envie de garder parce que j'aime beaucoup la thématique, j'aime beaucoup les éléments. Et comme je disais, j'ai des enfants qui commencent à jouer, donc ça fait la PS Vita a quand même une autre ludothèque qui est assez sympa à faire avec les enfants. Qui sont assez accessibles, donc ça reste les Minecraft, tous les Lego et tout ça permet d'avoir des jeux qui peuvent faire dans le train, été à côté, et on peut discuter assez facilement sur ces jeux-là, donc c'est quand même assez agréable avec les enfants.
Donc tu parlais du fait d'avoir trois PS Vita. Donc c'est pour, comme tu l'as évoqué, pour jouer à plusieurs jeux, enfin à un jeu à plusieurs, c'est ça? Donc il y avait
Non,
quoi?
non,
Il y
c'est
a...
juste, il y a, y avait, en gros, je voulais une PS Vita Slim parce que j'avais chopé une OLED en premier, donc j'en ai chopé une
Ouais.
Aqua Blue, et après j'ai récupéré sur une brocante une OLED 3G, et celle-là, elle sert de base hack en fait.
D'accord.
Et après, c'est en fonction de ce à quoi je joue. La première que j'ai achetée, ça reste la mienne. Et après, les deux autres, on alterne en fonction de ce à quoi veulent jouer les enfants. Si c'est des jeux physiques que j'ai, bah, ils peuvent jouer sur la Slim. Et sinon, bah, je leur montre des choses sur le hack avant qu'ils peuvent acheter, avant d'acheter, d'essayer d'acheter le film, ou leur montrer sur autre chose.
Non, d'accord. Ok, non, je pensais que tu utilisais aussi les trois consoles pour faire du jeu en ad hoc local.
Non, ils sont pas assez grands pour faire du ad hoc
Ouais.
local pour le moment.
Ok, d'accord. Parce que le adlock local sur des jeux comme Minecraft, franchement, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4. Je suis en train de vérifier. Sur la PS Vita, Minecraft, oui, c'est 4 joueurs en adlock local. C'est plutôt sympa et je me suis toujours dit un jour de faire une installation avec 4 PS TV dans une pièce avec 4 écrans. Et tu peux en fait faire l'équivalent un peu d'une LAN party comme ça se faisait dans la fin des années 90.
Ah, c'était génial.
Voilà, on est d'accord. Et c'est vrai que ça manque un peu aujourd'hui je trouve, sur les jeux actuels, des jeux où tu te retrouves, mais en vrai pas que sur du online, et où tu te retrouves avec des potes et vas-y, on va lancer ça, on joue à plusieurs dans la même pièce et on rigole, quoi. Donc c'est toujours ce que je suis dit avec je voyais cette PS TV pour faire ça, mais bon, voilà, ça demande quand même une grosse logistique, il faut acheter les écrans, il faut de la place. Et c'est un projet, mais voilà.
Ouais, ce serait peut-être un projet pour une PS Vita à Lyon, par exemple, ça pourrait être faisable.
Oui, ou dans une autre ville, effectivement. Après, c'est ce qu'avait fait aussi sur le bah, Sushi est là pour témoigner. C'est ce qui se déroulait aussi pour les Vita in Paris, où il y avait une PS TV qui était branchée et les autres joueurs avec leur propre PS Vita autour qui jouaient en multi local. Par
C'est
exemple,
ça.
Puyo Puyo Tetris, c'est ça? Entre autres.
Puyo, Sonic All-Star Racing,
Oui, bon exemple.
où là on pouvait avoir plusieurs comptes, enfin plusieurs PS Vita avec le même compte en ad hoc.
Et ça, c'est plutôt pas mal le ad hoc. C'est dommage que sur PS Vita, je trouve qu'il n'ait pas été vraiment beaucoup utilisé, surtout par rapport à la PSP où la PSP, on pouvait avoir. Il y a quand même beaucoup de jeux en ad hoc local et on pouvait monter jusqu'à 8 joueurs en général en même temps. Et sur PS Vita, bah, je suis en train de parcourir la liste. En général, c'est toujours bloqué à 4, par quelques exceptions. On est sur du 4 maximum. Alors Sonic All-Star, c'est en 8 joueurs, ce qui est pas mal aussi. On a Ridge Racer en 8, mais globalement, c'est du 2 ou 4. Bon, après, tout dépend les. Donc voilà. Everybody's Golf était à 8 aussi. Guillaume, pour continuer sur ce que tu disais, là maintenant, comment tu vois on va dire l'avenir? Alors, il n'y a plus vraiment d'avenir de la PS Vita puisque plus rien ne sort dessus, mais est-ce que maintenant ça va être ta machine de prédilection, vu que tu as parlé du hack, est-ce que ça va être une machine qui va qui va te servir par rapport aux émulateurs et aux autres choses qu'on peut faire à ce niveau?
Ouais, enfin, ça pourrait, elle va servir pour la partie du hack. Après, elle va déjà me servir à finir la ludothèque que j'ai actuellement, qui me laisse encore quelques belles années avant que j'arrive au bout. Et après, ouais, il y aura pas mal, je vais pas mal rejouer à beaucoup de classiques au final auxquels j'ai pas eu l'occasion de pousser ou de terminer parce que, j'avais pas le jeu quand j'étais plus jeune. Et, au final, j'ai pas de volonté à l'heure actuelle de racheter une console plus récente telle la PS5 ou la nouvelle Switch parce que j'ai pas le temps de jouer suffisamment et je trouve que l'offre est pas fantastique non plus au point de j'ai pas un banger qui me fait faut que j'achète la PS5 à l'heure actuelle.
Ok, c'est défendable hein. Et tu as combien de jeux actuellement sur la PS Vita?
La dernière fois que j'ai compté, je devais être à 50 en physique.
Ok, c'est pas mal, ça te fait une belle connexion de jeux que tu te dis allez celui-là ça me plaît sans pour autant te dire allez je l'achète pour l'avoir sur mon étagère. Comme tous ceux qui sont une grande partie des utilisateurs Discord ont plus dans des collections assez impressionnantes.
Ouais, je vois ça. Non, c'est plus léger, moi, de ce côté-là. Et je crois que j'en ai encore que deux, deux ou trois que j'ai encore sous terre, mais plus parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer que parce que je veux la garder sous blister.
Ok. Est-ce que si avec l'utilisation que tu en fais, est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves qui auraient dû être faites d'une manière différente? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves des points faibles à la PS Vita?
Les joysticks, dans la prise en main de la première PS Vita, la OLED, je trouve que, en fait, j'ai assez rapidement mal aux mains. Et le Ori Grip, ça avait vraiment été un instrument de confort de ce côté-là parce que la prise en main, elle est très bien pour juste une toute petite partie sur, tu fais un combat sur Dead or Alive ou quelque chose comme ça, mais dès que tu veux faire un RPG, tu fais une session d'une demi-heure, j'avais les mains qui faisaient énormément mal. Et après, venant de la PSP, ce qui est très surprenant, c'est on a l'impression qu'il y a plein de features, mais au final, il y avait la moitié qui n'était pas utilisée et pourtant, j'ai acheté en 2015. C'est ça qui était un peu dommage, on avait l'impression en 2015 qu'elle était déjà morte.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, surtout qu'en 2015, il y avait pas mal de fonctionnalités qui avaient déjà été retirées. Je pense à Nier, par exemple, qui était l'équivalent du Stripass de la 3DS. Ça, en 2015, c'était déjà retiré. Ils l'ont retiré assez rapidement quand même. Je crois que c'était 2014. Mais je rejoins sur ce que tu dis, venant du monde de la PSP, j'ai été déçu, par exemple, c'est tout con, hein, mais le lecteur audio de la PS Vita. Je trouvais que sur la PSP, il était vraiment beaucoup mieux, il était beaucoup plus complet. On avait des visualiseurs qui étaient intéressants. Alors que sur la PS Vita, on a l'impression que c'était vraiment un truc de base. Bon, même si après, on écoute de moins en moins nos musiques sur une console portable. Mais sur PSP, moi, je l'avais beaucoup fait. Et c'est vrai que ça m'avait un peu déçu à ce niveau-là.
Je suis tout à fait d'accord. Et toutes les problématiques qu'on pouvait avoir aussi sur la gestion des transferts de vidéos, si tu voulais, par exemple, tu avais un film ou des musiques que tu voulais transférer sur la PS Vita depuis le PC ou même avec la PS4, quoi que ce soit, tu passais des heures à essayer de trouver le bon format, il fallait avoir le convertisseur qui permettait d'avoir la vidéo au bon format et même quand il y avait, des fois, tu te trouvais avec des problèmes d'audio sur les Exactement. Vidéos. C'était très très compliqué alors que la PSP, tu mettais le format à vie ou même du DivX légal, bien sûr, et après, tu avais tout, ça marchait tout de suite alors que la PS Vita, c'était infernal. Enfin, c'est toujours infernal. Et je pense que ça a un lien avec le hack qu'il y a eu sur la PSP avec les cartes mémoire qui est verrouillée au maximum, ce qui fait que ça a beaucoup tué l'utilisation de la Vita, ça l'a rendu très complexe l'utilisation dès le départ.
Ouais, je pense qu'ils sont, je sais pas pourquoi ils sont pas, ils ont pas remis le meilleur de la PSP directement dans la PS Vita, mais vraiment sur la PSP t'avais la possibilité d'écouter les radios aussi en ligne, ça c'était vraiment trop bien quoi. Surtout à l'époque où pour le faire il fallait vraiment avoir un téléphone qui était beaucoup plus cher, enfin c'était pas aussi répandu que maintenant. Ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas remis. Surtout que maintenant tu peux écouter les podcasts assez facilement finalement. Pourquoi ils l'ont pas remis sur la PS Vita, je crois. Il y a plein de petites applications comme ça qui sortaient sur la PSP, comme il y avait des lecteurs ils avaient sorti une espèce de lecteur de PDF. Alors c'était pour lire des mangas, je crois. Pareil, il y avait pas sur la PS Vita. Ils ont pas poussé aussi loin l'univers multimédia sur la PS Vita.
Ouais, et le problème, c'est qu'ils étaient aussi en compétition avec les téléphones sur ce côté-là, et chaque fois que la PSD apparaisse en compétition avec les téléphones Sony, c'est l'environnement logiciel. Donc c'est ça qui est un peu, quand tu as dit ça, ça fait vraiment bizarre la manière dont ils ont traité la console.
Ouais, Ouais, c'est vrai. D'accord. Et sur les points, on a parlé un peu des points faibles, mais quels sont les points forts que tu retiens avec toutes ces utilisations que tu en fais depuis toutes ces années maintenant?
La qualité de l'écran OLED, quand je l'ai eu la première fois, j'ai passé des heures juste à jouer sur les contrastes pour juste me rendre compte à quel point c'était propre. Et après, je pense que quand bien même il y a pas beaucoup de jeux, il y a quand même énormément de très bons jeux sur lesquels tu peux passer beaucoup beaucoup de temps et pas te lasser de la console en fait. Et elle avait quand même à la sa sortie une batterie qui était quand même assez conséquente et ça permettait d'avoir des bonnes sessions de jeu. Je me rappelle de vol vers la Chine, vers les US où je passais une bonne partie du vol à jouer, c'était pas ça tenait bien, c'était agréable.
Ouais, je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est. Je me souviens à sa sortie, c'était un peu les premiers tests étaient un peu sévères, je trouve, sur l'utilisation de la batterie, comme quoi la batterie ne tenait pas longtemps et que c'était un peu le point faible de la machine. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait sur l'écran, ce qui s'affichait en plus sur un écran OLED, quand même se remettre dans le contexte de l'époque, c'était quand même ça faisait super. Enfin, ça sautait aux yeux, quoi. On t'allume l'écran de ta PS Vita, ça brille de tous les côtés, quoi. Donc, je trouve ils ont été assez sévères sur l'autonomie de la batterie et qui pourtant, je trouve, tient plutôt pas mal. Alors après, ça a été amélioré sur la Slim, ce qui est aussi bien le bienvenu, mais on a du coup l'écran qui n'est plus un écran OLED. Donc, juste là, j'en viendrai à ce que tu en penses, puisque tu as les deux types de consoles et à choisir entre le modèle Slim et le modèle Fat, tu garderais lequel?
J'ai une affection particulière pour le Fat parce que j'aime beaucoup le style qu'elle a. Je trouve qu'elle rend un bel hommage au style de la PS3 Fat aussi. C'est les mêmes, elle est cerclée, enfin il y a l'argent autour et je trouve que ça faisait un beau rappel à la PS3 Fat. J'adore le style de la PS3 Fat. Donc moi j'aime principalement ça et puis aussi le fait qu'elle soit légèrement plus lourde. Je préfère pour la tenue en main alors que la Steam me donne plus le poids d'un jouet par rapport à la Fat. Mais après, la Slim est très bien, l'Aqua Blue elle est magnifique et donc ouais non il y a pas de mauvais choix, il y a juste une préférence personnelle.
Ouais, c'est ça, c'est chacun voit de son côté ce qu'il préfère. Alors moi perso, j'ai une grosse affection, j'ai eu la PS Vita Fat le jour de sa sortie, mais c'est vrai que je préfère quand même la Slim parce que je trouve qu'elle est plus légère, les bords sont plus arrondis, donc c'est plus sympa. L'autonomie de la batterie qui est quand même un peu mieux. Voilà, après c'est dommage pour l'écran, mais on s'y fait vite et c'est presque du coup quand on retourne sur la Fat, c'est presque ah ouais, c'était comme ça. Donc, mais je préfère quand même ma PS Vita Aqua Blue qui est fait très fraîche. Franchement, elle est belle, quoi. Vraiment, ça a de la gueule, quoi. Puis la sort, c'est une jolie console, et puis aussi la Steam qui est quand même beaucoup plus légère. Je sais qu'on a SBK qui est plus fan de la Fat, si je me souviens bien. Il est encore là. Ouais.
Ça dépend. En
Ah, ça
fait,
dépend.
non, mais en gros, la 1000 a une meilleure finition. Ça c'est sûr et certain. Quand t'as des grandes mains, je pense qu'elle est plus confortable que l'autre qui est limite trop fine, trop légère. Mais après, pour ce qui est de l'autonomie, de la prise en main générale, du confort, je pense que c'est plus la 2000, surtout quand tu l'emmènes quelque part, en fait. Après, la 1000, en termes de finition, enfin, forcément, c'était pas les mêmes objectifs à la sortie. Je pense que c'est vraiment deux philosophies différentes. C'est-à-dire que d'un côté, t'as vraiment le modèle de démonstration, qui envoie le max. Et après, t'as le modèle un peu plus simple, qui est pas trop cheap non plus. Genre, c'est pas une PSP Street non plus. Donc, c'est un modèle un peu plus rationnel, mais qui n'est pas non plus trop dépouillé. Les deux modèles sont intéressants, ça dépend ce que tu veux en faire, mais dans tous les cas, tu te trompes pas en achetant l'une ou l'autre.
Ouais, tu trouves ton compte en fait.
Ouais, voilà, c'est
Tu
ça.
gagnes ton
C'est-à-dire que
compte.
les deux vont pouvoir avoir des avantages et des défauts, ça va pas être les mêmes, mais dans tous les cas, que ce soit l'une ou l'autre, le compte rendu est bon, quoi. Donc, ça dépend vraiment ce que tu cherches en fait.
Mais ouais, mais c'est quand même l'éternel débat parce que quand on est sur le Discord, on le voit bien, dès que quelqu'un arrive sur le Discord pour avoir des conseils parce qu'il souhaite acheter une PS Vita, la première question qu'il va nous poser, c'est est-ce que je dois prendre la Fat ou la Slim? Et c'est super, c'est pas évident de répondre à cette question parce qu'effectivement, chacun y trouve son compte, chacun a ses points positifs et négatifs sur l'une ou l'autre. Mais je rejoins sur ce que tu as dit, je trouve que la PS Vita Fat, en fait, ce serait un peu la console de luxe, en fait, qui pour rester à la maison, pas pour sortir avec. La Slim, c'est plus pour le transport parce que déjà, elle est plus petite, enfin elle est plus légère, je la trouve plus facile à transporter et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est, même si elle est fait un peu plus fragile de par sa fabrication, c'est plus celle-ci que je vais prendre pour sortir que la Fat. Bon, évidemment dans une pochette de transport, hein, mais je sais pas, j'aurais plus peur de sortir avec ma Fat dans la rue, enfin ou en voyage. Je prends toujours la Slim.
J'ai utilisé les deux indépendamment en fonction de ce sur quoi j'avais lancé la part. Parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que la fonctionnalité cross-save était géniale de ce côté-là. C'est qu'on pouvait prendre une partie, commencer d'un côté, là, on swappait la cartouche, on allait sur l'autre et continuait, il n'y avait pas de problème. Donc en fonction de la batterie, bah, des fois j'avais les deux et il y en avait une qui était vide et je passais sur l'autre en changeant juste la cartouche, quoi.
C'est vrai. Après, pour le transport, faut aussi se souvenir que bah, la PS Vita Fat avait son port propriétaire pour la recharge. Bon, finalement, tu peux te trimballer juste avec le câble qu'il faut, mais ça, c'était aussi chiant quand même. On avait l'USB équivalent avec le téléphone portable à l'époque. Tu prenais qu'un seul chargeur. Si tu te balades à droite à gauche, c'est un truc de plus à prendre, quoi.
Ouais.
Après, sur le cross-save, ouais, t'as raison. C'est une bonne. Enfin, l'idée est vraiment bien. Et je crois que il me semble que Sony, c'était les premiers à lancer le cross-save, le cross-buy, tout ce concept-là, qui a été suivi depuis par plusieurs autres marques. Mais c'était aussi un bel argument, je trouve, à l'époque, de te dire, ouais, t'achètes le jeu sur un support et tu le retrouves bah, sur PS3, sur PS Vita et sur ta PS4 aussi. Et finalement, tu peux continuer ta partie, bah, quel que soit le support où tu t'es arrêté la dernière fois. Et ça, franchement, sur le papier, c'est vraiment bien, quoi. T'as un écosystème qui est quand même bien foutu, puisque ça existe encore. On a même des jeux comme Hotline Miami qui sont du coup ont toujours cross-buy, et même avec la sortie sur la PS5, si tu l'avais acheté à l'époque sur PS Vita, tu peux encore le récupérer, et ça c'est vraiment bien quand même. Si ça vous intéresse, là c'était fantastique, ouais. Je disais, si ça vous intéresse, on a une liste sur le site de tous les jeux cross-buy que vous pouvez récupérer à partir de la PS Vita, donc du point de vue de la PS Vita, mais tous les jeux que vous pouvez récupérer, et c'est vrai qu'il y a des surprises. Des fois tu te dis, ah ouais, je peux récupérer ce jeu là parce que je l'avais eu à l'époque, même des fois il y avait des jeux PlayStation Plus qu'on chopait en PlayStation Plus et qui avec le cross-buy se débloquaient quand même sur la PS Vita alors qu'on n'était plus abonné PS Plus. Voilà, ça c'était aussi, je pense pas que c'était voulu, mais c'était pas mal aussi. Sushi, et toi, t'as une préférence entre la Slim et la Fat, qu'est-ce que tu penses?
Ah, c'est compliqué, hein. J'ai mon compte sur toute la quasiment mes Vita, donc selon le jeu, pareil, j'utilise soit une Fat, soit une Slim, soit la PSTV.
Ok, la PSTV, tu avais juste la whitelist dessus?
J'en ai une qui a la whitelist et j'en ai deux autres qui traînent, okay. Au cas où.
Au cas où, ouais.
Non, PSTV, c'est bien pour les jeux rétro, par exemple Crash Team Racing, ouais, où on peut jouer à 4.
Oui, c'est vrai, on en avait parlé sur l'ancien podcast sur le sujet, mais c'est vrai que les jeux PlayStation 1 que tu fais tourner sur PSTV, tu peux jouer à 4, comme à l'époque en fait. Et ils avaient même sorti des jeux PS Vita dédiés PSTV, tu pouvais jouer à plusieurs joueurs à 4 justement. Ça, c'était vraiment pas mal aussi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Guillaume?
Non, c'est tout pour moi.
Bah écoute, merci d'être passé pour nous raconter un peu ton aventure PS Vita. Et bah voilà, Guillaume, t'es toujours avec nous sur le Discord. Donc on est là sur le Discord pour faire dépenser l'argent dans la collection. On est un peu là pour ça. Voilà, désolé par avance.
On est d'accord. Non, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir au contraire. Mais des fois, j'ai un peu l'impression qu'on est des junkies qui nous échangeons les bons plans pour trouver notre cas.
Bah, c'est un peu ça, ouais.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Guillaume.
Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir en nous suivant sur les différentes plateformes où elle est disponible, en la likant et en laissant des commentaires. Pour finir, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don via PayPal. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement sur notre site planetevita.fr. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.